Mire!
Alice?
Comment ça va?
Très bien, et toi?
Ça va, ça va, ça va.
Ravi,
Ça va?
ça va?
Je suis très content de te voir. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Eh bien,
Pour moi, cela.
installe-toi, bienvenue.
Merci de me recevoir.
On est en live sur Twitch. Il y a juste un petit truc, il faut parler bien en face du micro.
Très bien.
Et ça sera très bien. Mire, je suis trop content de te recevoir. Mire, tu es Chief AI Officer chez Engie.
Je suis responsable de l'IA, effectivement, côté recherche et innovation chez Engie.
Ça veut dire quoi être responsable de l'innovation côté IA chez Engie?
Alors, l'IA chez Engie, c'est plein de choses parce qu'on parle beaucoup d'IA et d'énergie aujourd'hui. On parle beaucoup d'énergie pour l'IA parce que les data centers demandent beaucoup d'énergie. Mais on parle aussi d'IA pour l'énergie parce qu'on a une stratégie de transition énergétique qui est très importante, prioritaire pour Engie, où on veut développer des énergies bas carbone. Et donc, le rôle de l'IA, on essaie de réfléchir à comment est-ce que les nouveaux développements en IA pourront supporter cette transition énergétique. Et donc, je suis responsable côté recherche et innovation de voir qu'est-ce qui est en train d'arriver côté IA qu'on pourrait implémenter chez Engie sur des cas d'usage qui sont bien spécifiques au domaine de l'énergie et de la durabilité et de la transition énergétique.
Alors, tu as un parcours incroyable. Ton parcours part de la musique et de ta planète, puis arrive à l'IA industrielle chez Engie. Et ma question, elle est simple. Qu'est-ce que orchestrer des musiciens t'as appris et que tu utilises aussi pour orchestrer des machines et de l'énergie?
Alors, très bonne question. Et c'est vrai que mon parcours a été assez éclectique et c'est difficile de me placer dans une boîte, je dirais. Le fil rouge a toujours été l'IA, une forme d'IA ou une autre. Et effectivement, j'ai fait une recherche, de la recherche chez MIT pour faire mon doctorat là-bas.
MIT, le Massachusetts Institute
Voilà,
Technologique,
c'est ça, à Boston,
à Boston.
aux États-Unis. Et donc j'étais passionné de musique, passionné aussi par l'intelligence artificielle et les sciences cognitives pour essayer de comprendre comment est-ce que le cerveau marchait. Et là-bas, tout comme l'IA et l'énergie, c'est un peu à double sens. L'IA et la musique, c'est aussi un peu à double sens. C'est-à-dire que j'essayais de développer des modèles d'IA pour essayer de mieux comprendre et d'analyser la musique, mais aussi de comprendre comment est-ce que l'humain écoutait la musique pour pouvoir développer des systèmes d'IA qui puissent s'en inspirer. Ce qui est intéressant avec la musique par rapport à la parole, par exemple, c'est que c'est une des activités humaines qui utilise le plus de zones différentes du cerveau. Et donc, pour pouvoir développer des modèles d'IA, c'est assez intéressant d'utiliser la musique comme activité qui stimule le cerveau et qui permet ensuite de comprendre comment est-ce que les zones neuronales interagissent entre elles. J'ai développé un système qui s'appelle Tablanet et qui permettait à des musiciens qui étaient à distance de jouer en temps réel ensemble. Alors, le problème majeur quand on a des musiciens à distance, c'est la latence, c'est le délai qu'il peut y avoir entre le temps qu'un instrument est joué et que une personne qui est située à des milliers de kilomètres puisse entendre ce son. Et donc, pour synchroniser des instruments qui jouent à distance, c'est compliqué. Et donc, moi, ce que j'avais développé, c'était un modèle d'IA qui faisait de la prédiction de musique et qui pouvait anticiper ce que chaque musicien jouait pour pouvoir synchroniser les flux audio et pouvoir collaborer à distance.
Et du coup, est-ce que dans la grande musique qui est l'énergie aujourd'hui, quand je dis grande musique, si tu parles de réseau énergétique, est-ce que l'IA devient de plus en plus le chef d'orchestre ou pas?
Ouais, absolument. Alors, il y a des éléments très similaires à ce que moi j'ai pu développer sur les sujets de musique, qui sont autour, par exemple, de la prédiction. Alors, tout ce qui est prédiction de production énergétique, prédiction de consommation et orchestration de différents systèmes, c'est ce qui devient de plus en plus important côté énergétique. Alors, il y a deux sujets quand tu parles d'orchestration. Le premier qui est autour de systèmes énergétiques de plus en plus distribués, c'est-à-dire que parmi nos clients, on voit que ce soit des particuliers, des industries, des territoires, des systèmes qui sont. Alors, nos clients deviennent à la fois consommateurs, mais aussi producteurs et stockeurs d'énergie. C'est-à-dire que en tant que particulier, on a des panneaux solaires chez soi, on peut avoir des batteries de véhicules électriques et on est aussi consommateur d'énergie qui provient du réseau. Et donc, de pouvoir orchestrer ces différentes sources et consommations d'énergie avec nos équipements à la maison, ça peut être nos sèche-linges, nos lave-linges, etc., fait partie d'une orchestration qui devient de plus en plus complexe parce qu'on a de plus en plus d'éléments comme ça qui sont distribués. C'est plus l'énergie aujourd'hui, c'est plus un système centralisé. On parlait de centrale électrique, c'est un système centralisé et on arrive à des systèmes beaucoup plus distribués et beaucoup plus flexibles. Et de la même manière, l'IA qui essaie de modéliser ça, on se base de plus en plus sur des agents distribués, des agents qui nécessitent une orchestration pour pouvoir parler les uns avec les autres. Alors, c'est des agents qui peuvent être à la fois des agents conversationnels ou interactifs avec les utilisateurs. et puis des agents qui représentent des modèles qui sont des équipements physiques ou des modèles de flexibilité énergétique pour voir comment est-ce qu'on gère cette énergie sur les marchés énergétiques. On achète et on vend.
Et aujourd'hui, c'est quoi les trois plus gros sujets qui vous occupent en côté innovation et recherche ?
Alors, l'IA chez Engie, il y a plein d'équipes qui s'en occupent. On est assez distribué en termes d'organisation. Il y a des équipes qui sont très proches du business, des opérations et qui implémentent des sujets qui peuvent être implémentés directement. Alors, soit développés chez Engie, soit en partenariat avec des startups ou d'autres industries. Il y a des équipes qui sont plus centrales, qui développent des plateformes, de l'infrastructure, qui s'assurent qu'on suit bien les réglementations européennes et autres nécessaires autour de l'IA, qui traitent de cybersécurité, de choses qui sont transverses au groupe. Et puis côté recherche et innovation, on regarde qu'est-ce qui est en train d'arriver dans les prochaines phases de l'IA et comment est-ce qu'on peut l'appliquer à des activités cœur de métier autour de la transition énergétique. Et parmi ces activités, il y en a plusieurs qui nous intéressent aujourd'hui. L'une d'entre elles, c'est par exemple les jumeaux numériques. Le fait que les jumeaux numériques, ça fait longtemps qu'on en parle dans l'industrie.
Je m'en rappelais, il y a encore 5-6 ans, on nous parlait beaucoup d'usines 3.0, ouais. De jumeaux numériques des usines, etc., etc. C'est quoi un jumeau numérique aujourd'hui ?
Alors, un jumeau numérique, c'est une version digitale d'un système physique. Alors, ça peut être, par exemple, une ville, ça peut être une usine. Par exemple, la plupart des usines qui fabriquent des voitures, par exemple, ont un jumeau numérique pour pouvoir simuler si on change un équipement, qu'est-ce qui va se passer, comment est-ce qu'on optimise ce système, s'il y a des pannes, comment est-ce qu'on modélise ces pannes pour pouvoir faire des activités de maintenance le plus rapidement possible. Dans le domaine de l'énergie, on a des bouts de jumeaux numériques pour modéliser une centrale, par exemple thermique ou une centrale éolienne ou solaire. Mais on n'a pas jusqu'à présent eu tout un système qui représentait l'ensemble des activités. Aujourd'hui, ce qu'on se rend compte, c'est que avoir des jumeaux numériques qui sont basés sur une technologie qui était à la base autour d'équations physiques qui représentaient le comportement physique de chaque process. Alors une centrale thermique par exemple, ou bien une centrale biogaz. On essayait de modéliser comment est-ce que la production de biométhane pouvait être générée en fonction des types d'intrants que tu mettais dedans. Donc pour chaque type de process qu'on a, on a des systèmes qui modélisent
Des données qui remontent aussi, des données physiques qui remontent. Ça permet aussi une visualisation aussi plus facile, c'est-à-dire que plutôt parfois d'avoir des gros tableaux de bord, etc. Il suffit de montrer le jumeau numérique d'une usine générée en 3D et en 2 secondes, on est capable de voir les postes qui fonctionnent et les postes qui fonctionnent pas finalement.
Exactement. Alors, t'as le jumeau numérique physique aussi en termes de visualisation 3D. Où tu peux te balader quasiment en réalité virtuelle sur un site. Et on a quelques startups sur le stand Engie qui parlent de ça. Justement, c'est comment est-ce qu'on représente de façon visuelle ce qui se passe sur un site. Et puis, on peut rajouter des informations, par exemple, sur qu'est-ce qui traverse chaque câble ou chaque pipeline qu'on voit en visualisation. Et puis, il y a un jumeau numérique qui est un peu plus abstrait, qui représente justement des process physiques avec des équations. Et là où l'IA peut intervenir, c'est justement d'essayer d'apporter une couche qui rend les calculs beaucoup plus rapides. Et donc, au lieu d'avoir des équations physiques qu'on doit faire tourner pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours quelquefois pour modéliser un système, on a des systèmes d'IA qui peuvent aller beaucoup plus vite. Et donc, on peut faire des simulations beaucoup plus rapidement, de l'optimisation en quasiment temps réel, et puis faire potentiellement de l'automatisation. C'est-à-dire qu'à terme, on ne veut pas uniquement de l'IA qui fasse des analyses et qui fasse des tableaux de bord qui permettent de prendre des décisions qui sont ensuite prises par les humains, les opérateurs, mais potentiellement des actions qui soient prises par des agents IA, qui puissent prendre des actions sur les sites pour automatiser certains process.
Ah, aujourd'hui, vous allez aller jusqu'à laisser une intelligence artificielle prendre une décision finale sur certaines...
On ne le fait pas aujourd'hui parce qu'il y a tellement de contraintes à la fois technologiques, réglementaires, etc., sur des infrastructures critiques comme l'énergie, qu'on est assez loin de pouvoir implémenter ça. Mais c'est vrai qu'on commence à voir arriver ça dans d'autres industries comme tout ce qui est fabrication. Je parlais de la fabrication automobile. On voit des robots qui assemblent justement ces voitures. Alors, on pourrait s'imaginer que ça pourrait être... on voit déjà des véhicules autonomes dans certaines villes.
De plus en plus, oui.
Oui, de plus en plus. Et donc, on pourrait s'imaginer que des infrastructures comme une centrale pourraient être contrôlées automatiquement. Alors, il y a beaucoup de problématiques réglementaires aujourd'hui, des problématiques de sécurité, de cybersécurité, etc. Mais c'est des sujets qu'on commence à regarder.
Et justement, en termes d'industrie, moi, ce que je trouve magique un peu avec l'industrie que vous adressez chez Engie, l'énergie, c'est que vous avez en vérité la capacité d'utiliser l'intelligence artificielle dans le monde réel. De plus en plus, on va aller vers de l'IA physique. De plus en plus, on va aller vers des intelligences artificielles qui vont agir là où ils récupèrent la donnée, ce qu'on appelle le edge computing. Vous, aujourd'hui, comment est-ce que vous légiférez, comment est-ce que vous arbitrez en interne quand on se dit, est-ce que ce calcul, on le déporte au plus près de l'éolienne ou est-ce qu'on récupère les données de l'éolienne en physique et on les met sur le cloud et on fait notre petite business dans un data center cloud ou on-premise?
Bah alors, c'est des grosses questions. C'est un trade-off qu'il faut opérer. Alors, il y a plusieurs considérations à mettre en œuvre et je pense que il n'y a pas une seule décision au global. Ça va être au cas par cas. Mais les critères qu'on prend en œuvre, c'est par exemple le critère du coût. De plus en plus, on voit que les LLM avec le pay-per-use, avec le prix par token, risquent de coûter cher sur pas mal de cas d'usage. Et donc, le fait d'avoir un modèle qui tourne en local, soit à DL, soit sur un poste de travail, pourrait sauver des coûts, mais aussi permettre d'avoir plus de souveraineté sur un modèle qu'on a en interne. On est en train aussi d'évaluer une approche autour de small language model, pas de large language model, mais des modèles
des
plus petits.
Des petits modèles qui peuvent opérer typiquement sur des Raspberry ou même sur des téléphones, etc.
Exactement. Et ces modèles pourraient être entraînés sur des données qui proviennent du domaine de l'énergie spécifiquement et de chez Engie en particulier. Et donc, d'être beaucoup plus fiable en termes moins d'hallucinations, etc., parce qu'elles sont contraintes sur un domaine en particulier.
Oui, parce qu'il faut faire comprendre aux viewers qui nous regardent que pendant longtemps, l'industrie, ce qu'on appelait l'industrie 3.0, depuis même 10 ans, hein, c'est des sujets dont on parle, on avait commencé, je crois, dans les années 2017 à 2020, à faire des détecteurs d'anomalies.
Ouais.
Typiquement, des algorithmes de classification. Là, il y a un problème, là, il n'y a pas un problème. On mettait ça plugué sur un capteur dans une chaîne ou dans des éoliennes, etc. Et dès qu'il y avait un problème on-device, boum, ça envoyait une notification, etc. Ouais. etc. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a de plus en plus un problème qui se pose, c'est qu'on veut des agents qui réfléchissent et qui agissent de manière naturelle, mais ces agents pèsent lourd parfois. Et du coup, c'est ultra intéressant, ce SLM spécifique à l'énergie. C'est des approches que vous essayez dans ton équipe?
Ouais, qu'on commence à regarder, effectivement. Et donc, nous, côté recherche et innovation, on peut expérimenter. On essaye de tester, de dérisquer des solutions pour voir ensuite voir ce qui marche, ce qui accroche et puis ce qui peut apporter de la valeur business avant de le transférer vers les opérations pour pouvoir ensuite industrialiser ces solutions et puis les déployer à l'échelle.
Ça fait combien de temps que tu travailles chez Engie à ton poste?
Alors, ça fait presque 8 ans maintenant. J'ai passé 3 ans chez Engie Digital en rôle de Chief Data Officer, donc responsable de la data science. C'était avant ChatGPT, donc on parlait d'IA, mais c'était un peu plus un sujet un peu plus niche. Et puis, il y a 4 ans, j'ai rejoint Recherche et Innovation pour m'occuper de façon transverse sur les sujets RNI.
Du coup, ma question est très directe. Dans tes équipes, comment est-ce que tu as vu l'évolution de tes collaborateurs, des gens qui développent avec l'intelligence artificielle? Et aujourd'hui, c'est quoi ta politique sur ces sujets d'intelligence artificielle qui sont capables de coder, parfois plus vite, parfois mieux? Comment est-ce que... c'est quoi ta philosophie autour de ça aujourd'hui?
Alors, la première approche que j'ai eue... Alors, moi, je viens d'un monde recherche et ensuite entrepreneurial. Une des premières approches que j'ai eues quand je suis arrivé dans un grand groupe comme Engie, c'était d'avoir une approche orientée produit, ce qu'on appelle le product management, des boîtes tech comme Google et autres ont mis en place, qui sont vraiment, pour moi, différentes d'une chefferie de projet traditionnelle, qui sont orientées autour d'une approche méthodologique itérative, agile, avec l'utilisateur au centre des préoccupations, avec la création de valeur, et donc vraiment une approche cyclique plutôt que linéaire sur la gestion de projet et la gestion de développement de solutions. Et ces product managers, pour moi, donc je gérais des équipes de product managers qui, eux, avaient leurs propres équipes de développement, de design, de business, entre guillemets. Ouais. Alors, même si nous, le business est interne, c'est quand même la relation avec nos utilisateurs, nos clients finaux. Et donc, des équipes de développeurs. Et il y a encore 7-8 ans, quand je suis rentré chez Engie, on avait presque plus de développeurs que de data scientists.
C'est vrai.
Dans l'équipe, parce qu'il fallait créer toute cette infrastructure, tout ce software, tout cet enrobage de modèles IA, pour pouvoir ensuite délivrer de la valeur. Petit à petit, ce que j'ai vu et ce qui a commencé à arriver après l'arrivée de LLM et puis d'outils d'aide au codage, c'est une réduction des équipes de la taille des équipes de développement. Alors, à la fois parce qu'on avait plus de développeurs full stack que des développeurs back-end, front-end et plus spécialisés, mais aussi parce que on augmentait ces développeurs full stack avec des outils d'aide au codage. Et donc ça, c'est des choses qui existent depuis maintenant quelques mois, quelques années, qui deviennent de plus en plus matures. On voit bien que elle reste, il faut encore piloter ces outils avec des experts. Et c'est vrai que c'est une question qui se pose sur la place des juniors et des seniors.
Ouais, parce que ça allait être ma question. Aujourd'hui, moi, je te donne l'opportunité. Tu peux recruter 3 juniors ou un senior, tu fais quoi?
Alors, ça dépend de la temporalité du projet, je dirais. S'il faut délivrer quelque chose de rapide, je pense qu'un senior qui est accompagné d'un outil d'aide au développement peut aller beaucoup plus vite. Mais il faut aussi se dire que si on n'a pas de junior aujourd'hui, on n'aura pas de senior demain. Et donc, il faut vraiment pouvoir faire monter en compétences les profils qui sont en train d'arriver et que dès les écoles d'ingénieurs, les écoles par lesquelles ils passent, ils puissent adopter ces outils et ces nouvelles façons de travailler. J'enseigne à Sciences Po des cours de DIA, de sustainability, de deep tech, etc. J'ai des populations qui ne sont pas des populations purement d'ingénieurs, qui sont un peu mixtes, mais c'est un sujet auquel je réfléchis beaucoup, c'est quel est le futur de l'éducation, parce que quels sont les jobs de demain. Quel est le moyen enfin, on ne va pas demander à quelqu'un maintenant d'écrire une rédaction. Parce que.
Et comment on évalue aussi.
Et comment est-ce qu'on évalue, exactement. Ouais. Exactement, c'est ce que tu dis. C'est comment est-ce qu'on évalue la connaissance, parce que quelle est la connaissance de demain. Donc, c'est des questions qu'on se pose. Je n'ai pas de réponse à t'apporter, mais c'est des questions qui sont importantes à se poser.
Et du coup, c'est quoi les 2 conseils que tu donnerais aujourd'hui à un ingénieur?
Alors, dans la nouvelle configuration, je pense, de job, je parlais de product management. Mm-hmm. Je pense que pour moi, l'étape d'après, c'est pas du product management, c'est du process management. Et ce que j'entends par là, c'est que aujourd'hui, avec les outils IA, il faut se poser la question de comment est-ce qu'on refond les process existants. Et pour un grand groupe comme Engie, c'est une question qu'on se pose, et surtout côté recherche et innovation, c'est comment est-ce qu'on se prépare à l'avenir en essayant de trouver des disruptions nous-mêmes. Pour éviter qu'une startup arrive et disrupte notre business model. Et d'essayer de faire émerger ça, c'est compliqué. C'est compliqué pour un grand groupe, c'est compliqué en général parce que c'est plein d'hypothèses à tester. Et donc, de réimaginer les process métiers aujourd'hui avec une IA dans la boucle, c'est différent que d'optimiser des bouts de process. Et c'est l'approche qu'on a traditionnellement parce que les gens qui travaillent dans les opérations, ils connaissent leur process sur le bout des doigts et ils se disent « Ok, on peut optimiser ça et ça ». Mais la question qu'il faut se poser, c'est par rapport aux objectifs qu'on se fixe d'une entité, d'un process au global, si on avait de l'IA dès le départ, comment est-ce qu'on inventerait le truc de scratch?
Et même en termes de product management, même de product ownership, moi, je vois aussi quand avant, alors ça date d'il y a 8, 9, 6 ans, quand des métiers, marketing, des RH, métiers support, etc., avaient des besoins de logiciels, avaient des besoins de solutions, etc. Ils allaient taper à la DSI qui leur disait, OK, attendez, on fait un cahier des charges, OK, on prend 3 mois de process, etc., etc. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui me disent que, en fait, ils sont dans des métiers qui sont pas tech, mais avec l'intelligence artificielle en mode un peu shadow AI, ils arrivent à faire des POC, ils arrivent à transformer aussi rapidement ce qu'ils veulent. Mais maintenant, il y a un autre goulot d'étranglement. C'est quand ils arrivent avec ce POC-là et qu'ils vont voir les DSI et qu'ils leur disent « maintenant, mettez-moi ça en prod ». Et ils s'attendent à ce que ce soit un claquement de doigts, ce qui n'arrive jamais quand on veut mettre en prod. Est-ce que toi, tu le vois venir aussi dans les équipes aujourd'hui chez Engie ou pas?
Oui, absolument. Et c'est un vrai sujet. Alors, côté recherche et innovation, on n'industrialise pas nos solutions. On les dérisque à la fois du point de vue technologique et du point de vue valeur business. Et une fois qu'on a fait des pilotes et qu'on voit que ça fonctionne, on passe la main aux opérations, au business pour essayer d'industrialiser, de passer à l'échelle. Et donc, ce transfert, c'est assez récent. C'est un moyen qu'on a de faire en sorte que le business puisse s'embarquer et puisse être responsable du déploiement de leurs solutions.
C'est quelque chose de positif pour toi?
C'est quelque chose de très positif parce que ça permet justement de passer la main. Et ce n'est pas la technologie qui est en charge du déploiement des outils, c'est le business. Parce qu'il faut créer de la valeur, après tout, c'est l'impact finalement qui est important. Et donc, le fait qu'on ait de plus en plus d'outils low code, no code et maintenant d'aide au développement, pour moi, quand on parlait de rôle de product manager, ce que je vois évoluer aussi, c'est qu'on voit des product managers sans équipe.
Ouais.
Et eux, c'est des orchestrateurs d'agents, en fait. Il y a des agents qui font du code, des agents qui font du design, des agents qui font une stratégie marketing. Et le fait d'opérer ces agents-là, ça pourrait être une personne, voire un petit groupe de personnes qui a un projet end-to-end. Et ça, si on porte ça au process, ça devient ce nouveau type de rôle qui est très méthodologique ou sur on arrive à orchestrer des agents qui permettent de développer un projet de scratch juste en ayant une idée et de tester ça rapidement. Et puis, l'autre sujet, c'est pour les profils développeurs, ingénieurs, techniques, etc., c'est de se poser la question de l'applicabilité de leur technologie, de la technologie sur des domaines précis. Et se dire, voilà, si moi, ce qui me passionne, c'est la santé ou l'énergie ou l'automobile ou quoi que ce soit, je vais apprendre le domaine pour pouvoir appliquer de la technologie sur un domaine.
Ça devient un outil en plus pour s'augmenter aussi.
C'est ça. Ouais. Et les gens du business, de plus en plus, vont devenir techniques, même s'ils ont, ils n'ont pas à apprendre le codage. Ils vont pouvoir développer des outils eux-mêmes. Les gens du technique doivent se rapprocher du métier pour pouvoir savoir pourquoi ils développent des solutions.
Et est-ce que tu penses qu'il y a actuellement dans les entreprises, chez Engie, en recherche et innovation surtout, une hype autour des LLM ? Est-ce que tu ne trouves pas qu'on a abandonné aussi ou c'est moins mis sur le devant de la scène, les, j'allais dire les anciens algorithmes, mais pas du tout, tout ce qui va être forecast, tout ce qui va être clusterisation, classification, détection d'anomalies, etc. Moi, je vais être très honnête, il y a 10 ans, quand j'ai commencé mon taf de data scientist, j'utilisais Scikit-learn tout le temps.
Ouais, ouais.
Tout le temps. TensorFlow tout le temps. Et là, maintenant, quand je vois certains clients, quand je vois certains projets dans des entreprises, le premier truc qu'ils vont faire, c'est import OpenAI. Ça va être d'importer des librairies de LLM. Comment est-ce que tu vois cette évolution ? Est-ce que pour toi, les projets de machine learning traditionnels, ils ont toujours une importance ? Je pense que oui, mais d'un point de vue politique, en interne, en entreprise aussi, est-ce qu'on pousse trop parfois des projets de LLM ou au contraire, tu penses qu'on n'en pousse pas assez ?
Alors, moi, ma philosophie, c'est utiliser le bon outil pour le bon usage. Et pour moi, c'est clair qu'il y a des usages où il faut continuer à utiliser Scikit-learn. Enfin, c'est une librairie et on a Probable qui arrive tout à l'heure sur un panel. Je pense qu'il faut faire cohabiter des LLM avec des méthodes plus classiques. Et je pense que le moyen le plus efficace de faire ça, ça va être la gestion du coût. Le fait que si on utilise un LLM pour tout faire, les coûts vont exploser. Ça va pas être soutenable et donc d'utiliser la bonne technologie. Et donc, il y a pas mal de librairies de machine learning classiques qui sont open source, sans coût, donc à part des coûts de run. Et donc, ça va être des approches hybrides. Et de plus en plus, je pense qu'on va commencer à avoir des modèles eux-mêmes hybrides qui combinent des approches quantitatives qui travaillent sur des données tabulaires ou time series, données temporelles, avec des données non structurées de type texte, audio, vidéo, etc. Et combiner les deux. Je pense que c'est pas encore mature au point d'avoir ça en production chez OpenAI ou Anthropic ou Mistral, mais c'est des pistes de recherche avec lesquelles on travaille.
C'est vrai que moi, je vois beaucoup aussi de projets augmentés par l'IA. C'est-à-dire que même si on fait un algorithme, je sais pas moi, on parlait de détection d'anomalie sur une éolienne. Avant, on aurait reçu une notification sur un dashboard obscur qui va nous dire bip bip, il y a un problème ici. Maintenant, peut-être qu'on va avoir ce même dashboard sur le côté un assistant d'IA avec lequel on va pouvoir parler. Il va être connecté à l'intégralité des données et il va aussi nous aider et nous aiguiller sur ce qui va être fait. Est-ce que vous avez des cas d'application aujourd'hui comme ça chez Engie d'assistant augmenté qui permet de rendre les données
absolument
plus intelligibles?
Je pense que toute la chaîne de valeur en fait est en train d'être. Ce qui est intéressant, tu parlais de maintenance prédictive, de détection d'anomalies. Ces sujets qui existaient il y a 10 ans, ils existent toujours.
Bien sûr.
Et on utilise de nouvelles méthodes pour essayer d'y répondre. Donc aujourd'hui, par exemple, on a un projet de détection de root cause. Quand on a une anomalie qui est détectée, on essaye de savoir pourquoi est-ce qu'il y a cette anomalie, quels sont les éléments qui font que voilà, il y a cet équipement qui est en train de tomber en panne. Et là, on analyse à la fois des données quantitatives qui proviennent de capteurs qui sont sur nos équipements, avec des données qui proviennent de PDF qui sont scannées, avec des textes, avec des schémas, avec des choses qui ne sont pas structurées. Et puis, des systèmes de maintenance où quelquefois, on a des logbooks qui sont encore écrits à la main, etc. Et l'idée, c'est de pouvoir déjà digitaliser tout ça et intégrer des données multimodales qui proviennent de ces différentes sources et pouvoir intégrer ça dans des modèles IA qui permettent ensuite de donner des recommandations quelles sont les root causes.
Je vois. Ultra intéressant.
Et donc les problèmes, en fait, n'ont pas changé. On a toujours les mêmes problèmes qu'on avait il y a 10 ans. C'est juste que les approches sont différentes. Je prends l'exemple, par exemple, donc j'ai beaucoup travaillé dans la musique, dans l'audio, comme on en parlait tout à l'heure. Je travaillais dans la reconnaissance vocale en début des années 2000, 99-2000. On avait des approches très différentes de ce que OpenAI fait aujourd'hui avec du génératif pour écouter et faire de la transcription. On avait des systèmes basés sur, pour ceux qui connaissent, des modèles de Markov cachés. Et ça marchait plus ou moins sur une phrase un peu hachée où il fallait séparer chaque mot, chaque chiffre. Tu pouvais pas parler en continu comme on peut le faire aujourd'hui. Mais les problèmes étaient les mêmes. On essayait de reconnaître la voix et ça fonctionnait pour des cas d'usage limités. Donc la technologie est en train d'évoluer. Les cas d'usage existent et on essaye de les faire évoluer. Et je pense que là, on a un point d'inflexion. C'est vraiment que sur les process, il faut vraiment se poser la question de comment est-ce qu'on réimagine les process, parce que l'IA aujourd'hui est native. C'est pas quelque chose qu'on ajoute en add-on, ce qui est un petit peu le cas dans les entreprises, parce que voilà, on est trop habitué, le changement est compliqué, on est trop habitué à nos process. Mais il faut vraiment ce shift d'état d'esprit, de mindset. Et dans l'éducation et les formations continues qu'on peut avoir dans les entreprises, c'est ce qu'il faut apporter. C'est ce mindset shift sur comment est-ce qu'on expérimente et qu'on utilise de nouveaux outils.
Des réglementations quand on fait de la R&D. Comment est-ce que tu vis les réglementations? Par exemple, on peut parler de l'AI Act. Avant, on peut parler du RGPD, etc. Et ça. Comment est-ce qu'on combine le fait d'être de plus en plus réglementé, parfois sur certains sujets, avec des challenges de R&D aujourd'hui dans les grandes entreprises, et notamment chez Engie?
Alors, je dirais que côté R&D, on est... pour moi, ce que je décrirais un peu chanceux, dans la mesure où on n'est pas dans des systèmes de production, où on peut, alors je ne dirais pas s'affranchir complètement de réglementation, bien sûr, on adhère à tout ce qui est RGPD, etc. Mais comme on n'a pas de système en production, toutes les criticités liées à l'AI Act, par exemple, on ne les applique pas forcément, parce qu'on ne va pas mettre quelque chose qui va influer sur un équipement critique, énergétique ou autre. Donc, et après, chez Engie, on n'a pas beaucoup de... Enfin, à part le B2C, les relations clients, toutes les données industrielles avec lesquelles on travaille ne sont pas soumises au RGPD de manière à gérer des données personnelles, identifiables, etc. Donc, dans l'expérimentation, dans le travail qu'on peut avoir avec des labos de recherche, avec des startups émergentes, etc., on peut, d'une certaine manière, explorer le champ des possibles sans vraiment se poser la question en amont. À un moment donné, quand on va faire des pilotes, etc., on va se poser cette question, parce qu'il faut à la fois se poser la question de la valeur business, des contraintes et des réglementations et des choses à suivre pour pouvoir implémenter une solution, tout ce qui est cybersécurité, etc. Donc, il y a énormément de choses à prendre en compte dans l'industrialisation. Et c'est ce que tu mentionnais tout à l'heure, c'est qu'on peut faire des POC, finalement, aujourd'hui, assez rapidement, avec tous les outils qu'on a à disposition. D'industrialiser une solution, ça met énormément de temps. Ça met encore beaucoup de temps. Et quelquefois, les gens ne s'en rendent pas compte quand on n'est pas dedans. Et donc, on se dit, voilà, en une semaine, on a développé un POC. De la semaine 2, fais-moi le système en production. Et ça ne marche pas comme ça, parce qu'il y a tellement de contraintes à prendre en compte. Et une des contraintes, au-delà du technique, au-delà des réglementations, de la sécurité, etc., c'est l'humain. C'est le taux de changement aujourd'hui de la technologie est tellement rapide qu'il est beaucoup plus rapide en termes de vélocité que le temps de changement de l'humain, des organisations et de la société en général.
Et ça ne fait pas peur parfois aussi en interne de voir à quel point ça va vite? Est-ce qu'on ne se dit pas « Waouh, on a toujours quelque chose à rattraper », ça peut créer de l'anxiété aussi.
Bien sûr. On essaye d'intégrer ça dans les programmes qui sont en support en termes de santé mentale, santé physique, etc. Et puis de réfléchir aux craintes que les personnes peuvent avoir. Et même ceux qui travaillent dans l'IA, il y a ce qu'on appelle le AI fatigue. Le fait que la technologie évolue tellement rapidement qu'on n'arrive plus à suivre, ou on est en vacances une semaine, on revient, on est débordé.
Mais justement, comment tu fais pour construire ta roadmap de R&D en IA en 2026? Toutes les deux semaines, il peut y avoir un nouveau modèle qui sort, des nouvelles choses qui se débloquent. Comment tu fais pour tenir une roadmap et la construire?
Alors, je pense qu'il faut filtrer le bruit.
Okay.
Il peut y avoir énormément de trucs qui se passent d'un jour à l'autre. C'est vraiment, je pense qu'on est passé d'un rythme hebdomadaire, il y a encore quelques mois, un rythme journalier avec des trucs énormes qui se passent quasiment tous les jours. Il y a des événements comme IVA Tech, etc., qui permettent d'avoir plein d'informations, de faire plein de rencontres, de partenariats, etc. Mais il faut filtrer le bruit pour avoir vraiment, essayer d'avoir les signaux faibles et les signaux qui ont de la valeur. Après, on n'a pas la prétention de savoir tout ce qui peut apporter quelque chose. Mais une fois qu'on a identifié quelque chose qui peut avoir un peu de valeur, on va essayer d'expérimenter. Et je pense que c'est ce mindset d'expérimentation que tout le monde doit avoir, que ce soit côté technologie avec des approches agiles et autres, mais aussi du côté business. C'est-à-dire que les outils et les process vont évoluer tellement rapidement qu'il faut se placer dans une optique d'amélioration continue.
Mais est-ce que finalement, on n'attend pas ça de plus en plus aussi des juniors, de justement Absolument. Venir en interne et avoir cette capacité de curiosité constante, où parfois, moi, je l'ai vécu et je le sais, et même moi, j'étais victime de ça. Quand on est senior, on se dit, bon, je connais ma tech, je connais ce que je fais, etc., etc. Et parfois, il y a des juniors qui arrivent et qui me disent, mais attends, t'as pas vu le dernier modèle aussi ici? Est-ce que c'est pas finalement un des meilleurs conseils aussi qu'on peut donner aux juniors, d'être curieux et de peut-être attendre de eux en entreprise de plus en plus cette nouveauté?
Ouais, je pense que tu as totalement raison. L'idée que les juniors peuvent apporter justement cette fraîcheur, je pense que, voilà, par exemple, là, je suis en train de me poser la question de recruter un stagiaire et je veux quelqu'un de jeune, justement, quelqu'un qui puisse tester plein de modèles différents et qui n'ait pas un mindset déjà préformaté d'une certaine manière. Donc, les seniors ont énormément de valeur en termes d'expertise, en termes de connaissances et puis peuvent justement réduire leur sensibilité au bruit, notamment, et donc filtrer un petit peu toutes les nouvelles qui arrivent pour savoir quels sont les signaux qui sont plus importants à prioriser. Les jeunes peuvent arriver justement avec ce dynamisme et cette connaissance et cette ouverture d'esprit pour incorporer tout. Et je pense que la collaboration entre les juniors et les seniors, avec un IA dans la boucle, ça pourrait être très powerful, apporter beaucoup de valeur à une équipe. Je l'ai pas encore mise en place, mais ça peut être une super idée.
Du coup, les trois grosses innovations là, les trois gros sujets que tu vois arriver dans les prochaines années sur l'énergie, sur l'intelligence artificielle, sur l'énergie avec l'intelligence artificielle. Du coup, on a parlé de data center au début. Ouais. C'est un gros sujet aujourd'hui chez vous. Je sais que la France veut se positionner de plus en plus aussi comme une nation de data center. Comment vous le prévoyez aussi ça peut-être?
Ouais, bien sûr. Alors Engie fournit de l'énergie verte pour les data centers, et puis on a une stratégie autour de ça. Je pense que les boîtes tech deviennent elles-mêmes productrices d'énergie. On voit des hyperscalers américains en train d'investir dans des réacteurs modulaires nucléaires de petite taille, des investissements dans la fusion, etc. Donc, il y a énormément de réflexions de la tech dans ce domaine-là. On a entendu Arthur Mensch, il y a quelques semaines, parler de l'énergie comme étant le point critique pour le développement de nouveaux modèles. Donc, dans la tech stack de l'IA et des data centers, l'énergie est un point absolument crucial. La France a énormément d'atouts, comme on le sait, via le nucléaire, pour de l'énergie décarbonée. Mais je pense que le taux de croissance des data centers fait que, on voit aux États-Unis, par exemple, le démarrage de nouvelles centrales thermiques polluantes pour offrir de l'énergie à des nouveaux data centers qui émergent du sol très rapidement. En Europe, on essaie de réglementer, d'être un peu plus prudent sur le développement de nouvelles infrastructures pour être sûr que ça s'intègre bien avec l'environnement, l'écosystème ambiant. Eric Schmidt, par exemple, anciennement Google, avait dit il y a quelques mois qu'il imaginait, lui, sa recommandation, c'était que les boîtes tech développent leur propre source d'énergie plutôt qu'à y puiser dans le réseau parce que ça impliquerait…
Engie, bientôt concurrent de Google?
Ben, on pourrait imaginer ça, oui, effectivement, que sur le domaine de l'énergie, on soit concurrent, et sur le domaine de l'IA appliquée à l'énergie, on soit aussi concurrent, parce qu'eux vont développer aussi des modèles pour que ça soit plus efficace d'utiliser de l'énergie.
Et comment vous anticipez ça, alors?
Des partenariats, des collaborations, continuent à se parler. Et puis, je pense que personne n'arrivera à régler le problème de l'énergie et de l'IA et l'intersection des deux tout seul. Je pense qu'il faut des initiatives collaboratives entre institutions publiques, industries et grands groupes, start-up, institutions de recherche, think tank, policy maker, etc. Et donc, créer des écosystèmes, et c'est ce que j'essaie de faire entre un niveau modeste avec des écosystèmes académiques, recherche, industrielle, start-up en France, et avec des corridors entre la France, l'Inde, France, États-Unis, etc. C'est de se poser la question de comment est-ce qu'on a des valeurs communes qu'on peut partager et quelle est une stratégie de collaboration commune. Et comme je disais, c'est pas forcément des choses très formelles, c'est partager un mindset et partager des personnes qui ont une volonté d'avoir un impact positif.
Que sont les compétences que tu recherches? Quel type de junior, par exemple, aujourd'hui, tu vas rechercher? Il y a des étudiants dans le chat qui se demandent, mais à quoi je dois me former aujourd'hui? Une IA est capable de faire un site internet? Est-ce que DevWeb, c'est foutu? Est-ce que si je fais encore data scientist, ça vaut quelque chose? Qu'est-ce que tu leur recommandes, toi, aujourd'hui?
Alors, la façon dont je vois les choses, c'est que le code, en fait, c'est un langage formel pour donner des instructions. Et ce qui se passe avec les LLM, c'est que ce langage formel devient de plus en plus abstrait et de plus en plus proche du langage naturel. Mais il y a toute une classe de problèmes où il va falloir continuer à spécifier les problèmes de manière très rigoureuse. Les maths, c'est aussi un langage formel qui permet de décrire des problèmes. Et aujourd'hui, il y a toute une enfin, il y a plein de problèmes complexes qu'on peut pas encore décrire avec du langage naturel. Il y a encore des documents qui sont des documents de spécification, des documents, ce qu'on appelle des requirements documents, des documentations qui représentent comment est-ce qu'on cadre un problème. Et donc, la description du problème devient plus importante que sa résolution. L'IA peut aider à la résolution d'un problème qui est bien défini. Donc, pour pouvoir avoir les outils méthodologiques qui permettent de décrire ces problèmes, c'est important. Donc, la méthodologie et le mindset. Et la connaissance du domaine, ça devient important. Et c'est ces deux atouts qui, combinés, vont faire que des juniors vont arriver mieux équipés que les seniors qui doivent s'adapter et puis adopter de nouvelles. Le changement, c'est compliqué. Et on arrive avec des outils et des instruments tellement disruptifs que
on va attendre de plus en plus qu'ils soient chefs d'orchestre, peut-être.
Ouais, les jeunes vont avoir énormément d'opportunités d'avoir un mindset complètement différent de leurs aînés et d'apporter ces nouvelles façons de travailler dans l'entreprise.
Avec l'intelligence artificielle dans les prochaines années, c'est quoi les principaux avantages et les principales peurs aussi, peut-être, que tu peux avoir de l'IA sur le domaine de l'énergie au niveau global, parce que tu as un scope très très large qui est incroyable, au niveau de la R&D peut-être, au niveau de l'Europe aussi peut-être. C'est quoi ton espoir?
Alors, je pense que, comme je disais tout à l'heure, le rythme de changement des individus, des organisations, des sociétés est beaucoup plus lent que la technologie. L'adoption, le fait de se poser les bonnes questions, ça sera un grand pas en avant. Je pense qu'on a les outils aujourd'hui pour apporter des réponses aux questions qu'on se pose, mais on se pose pas encore les bonnes questions. Et donc, savoir comment est-ce qu'on priorise les sujets qui sont importants pour une organisation, une entreprise, à la fois du point de vue financier, mais du point de vue impact environnemental et sociétal, sujets qui sont un petit peu passés sous la table depuis quelques temps et qui doivent revenir sur le devant de la scène parce que c'est un sujet crucial dans le monde dans lequel on vit. Ça, c'est important. Et donc, se poser ces bonnes questions et ensuite mettre en place des équipes qui puissent trouver des réponses, expérimenter sur le type de réponse à apporter à ces problèmes. Je pense que c'est un travail collaboratif, un travail qui nécessite de mettre des compétences très différentes avec les unes avec les autres. Et aujourd'hui, on peut se dire que les profils de demain, ça ne sera pas des équipes multidisciplinaires, ça sera des profils multidisciplinaires, ça sera des gens.
Ok, ça sera pas, on n'aura pas une équipe web, on n'aura pas une équipe back, on n'aura pas une équipe architecte data, on aura en fait des gens capables de prendre plusieurs casquettes à un moment donné.
Ouais, une personne qui pourra se dire, voilà, moi je veux régler tel problème très spécifique dans le domaine de la santé, par exemple. Et je vais faire intervenir des compétences humaines ou agentiques ensemble pour pouvoir répondre à un problème.
Mais justement, dans le chat, il y a quelqu'un qui me dit, est-ce que être un peu bon en tout, en vérité, c'est pas être expert de rien?
Alors, ça, c'est toujours la question qui revient. Et la question entre, surtout pour quelqu'un qui fait un doctorat, on est toujours poussé à faire, voilà, avoir un impact.
Une spécialité, ouais.
Dans une spécialité de niche très précise. Aujourd'hui, avec l'approche qu'on a, c'est un balancier, je dirais. Et il y a quelques temps encore, on devait encore être spécialiste d'un domaine parce que c'est comme ça qu'on faisait partie d'une équipe. Mais je pense que le balancier aujourd'hui est plus vers des profils qui sont multidisciplinaires et qui peuvent utiliser les compétences expertes humaines ou agentiques pour pouvoir répondre à des besoins. Des
problèmes, oui, mais par exemple, un data scientist, moi, je crois beaucoup au fait qu'un data scientist ne pouvait pas être expert en computer vision, en même temps expert en NLP, en même temps expert en forecast, en même temps expert en... Et ça, c'était le problème, moi, que j'ai eu dans beaucoup d'entreprises par lesquelles je suis passé. On recrutait des data scientists et on pensait qu'ils allaient pouvoir travailler sur toutes les modalités de texte, de forecast, etc., etc. Alors qu'en vérité... Enfin, quand on travaille sur du forecast, sur de la RIMA, quand on travaille sur... Il y a des algorithmes, en vérité, qui sont différents à chaque fois aussi. Et là, pour le coup, pour moi, l'expertise est ultra importante. Et pour le coup, je vois plus une multidisciplinarité sur le fait qu'avant, si je faisais un modèle de forecast, bah, je n'allais pas envoyer un notebook collab à mon manager. Je vais peut-être le mettre dans un joli dashboard web, etc. Et à la place d'aller voir un dev web, là, je me dis, bah, vas-y, je vais le faire en dev web. Et du coup, j'ai cette expertise centrale et autour, un arc-en-ciel de compétences.
C'est absolument ça. Je pense que c'est ce qu'on appelle le T, c'est avoir une base qui soit assez large et puis un endroit où on soit suffisamment expert.
Qui fait la différence aussi.
Qui apporte une différenciation, effectivement. Et je pense que une fois qu'on a un angle qui soit de spécialisation qui existe, ça entraîne aussi le cerveau à travailler sur des choses qui sont profondes. Et donc, on peut, même si on n'est pas expert en tout, on peut comprendre les enjeux et parler à des experts dans d'autres domaines.
Parce que moi, je trouve incroyable, pour le coup, des experts métiers qui se forment un peu à l'IA. C'est-à-dire que j'ai vu, il n'y a pas si longtemps que ça, une pote à moi qui est dans les achats dans un groupe, et elle n'était pas du tout profil tech, et elle me dit « Regarde, j'ai développé un tout petit truc en IA, et en fait, ça m'aide dans mon travail. » Et moi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais parfois, j'ai tendance à recommander aux gens qui sont très experts dans un domaine, vraiment utiliser l'IA comme un outil, et en fait, ça va venir les accélérer un peu comme quand on utilisait Excel,
ouais,
finalement. Tu vois.
Ouais, complètement. Je pense que c'est vraiment cette direction qui va s'amorcer, qui commence à s'amorcer. C'est des experts métiers ou des gens opérationnels qui commencent à utiliser des outils IA et à développer leurs propres agents pour les aider dans leur travail de tous les jours, sans forcément maintenant faire appel à des équipes de développement ou à la DSI, etc. Ils pourront le faire tout seuls. Et donc, c'est pour ça que ça devient important pour les gens de la tech de connaître le domaine d'application dans lequel ils veulent développer des choses, parce que les profils vont converger, en fait. Et je pense que ça va être un profil qui va orchestrer des agents et des experts pour pouvoir répondre à des besoins. Et donc, il faut connaître à la fois ce que la tech est capable de faire et aussi ce que le problème, comment caractériser le problème de manière précise.
Dernière question, tout se transforme ultra vite. Est-ce que tu préfères travailler dans la tech aujourd'hui ou il y a 10 ans ou dans 10 ans?
Très bonne question, et j'ai adoré les différentes phases de ma vie professionnelle. Il y a 10 ans, je pense que j'étais aussi dans des organisations de R&D et je faisais des choses qui semblaient magiques à l'époque. De plus en plus magiques aujourd'hui. J'ai eu l'opportunité, la chance de travailler dans la recherche, notamment à MIT, avec des gens qui étaient fondatrices du domaine de l'IA en tant que tel il y a 60-70 ans. Et ce qui m'étonne, enfin, ce qui est un point de surprise pour les gens qui sont vraiment dans ce domaine-là, c'est que tous les 10 ans, les experts en IA se disent, voilà, dans les 5 à 10 ans à venir, on arrivera
à l'AGI,
l'intelligence artificielle généralisée. C'était vrai il y a 20 ans, c'est encore vrai aujourd'hui.
C'est le loup qu'on poursuit tous.
Et après, il y a eu ce qu'on appelle des hivers de l'IA régulièrement. Donc, où est-ce qu'on en est par rapport au hype de l'IA aujourd'hui? C'est une grosse question. Mais c'est vrai que par rapport à l'adoption, on est très loin d'avoir adopté les outils qui, même aujourd'hui, existent ou qui existaient il y a encore un an ou quelques mois. Et donc, vu la rapidité de développement des outils, la question du changement et de la transformation des organisations et des individus, ça va être la partie la plus cruciale. Donc, pour répondre à la question, je suis très curieux de voir comment est-ce que ma vie professionnelle va évoluer dans les 3 à 5 prochaines années. Et je pense que je ne m'imagine même pas de l'impact que la technologie pourra avoir.
Incroyable. Merci beaucoup, Mir.
Merci à toi.
Sakar,
des discussions toujours super intéressantes.
Merci. Mais c'est réciproque. Je pourrais parler avec toi pendant des heures et des heures. Head of AI, Engie, recherche et innovation. Merci beaucoup, Mir. Je vais te raccompagner. On met un petit écran de pause et je reviens tout de suite, les amis, en live.